vers sa parole. Et ce matin, nous allons attirer toute notre attention sur le seul nom qui a été donné parmi les hommes, le seul nom qui sauve, le seul nom qui libère de tout joug, de toute forme d'esclavage, le seul nom qui transforme la malédiction en bénédiction, le seul nom, mes amis, qui nous affranchit véritablement, qui nous libère de toute forme d'esclavage. Et ce nom, c'est le nom que porte le Fils du Dieu vivant, c'est le nom que porte, eh bien, celui qui a paru et qui a détruit les œuvres des ténèbres. C'est le nom qui a fait trembler l'enfer et qui fait trembler encore l'enfer. Car à chaque fois que nous invoquons son nom, ce nom-là, dans la puissance du Saint-Esprit, quelque chose se passe non seulement en nous, mais aussi tout autour de nous. Car il est la lumière. Quand vous appuyez sur un interrupteur, eh bien la lampe s'allume. Et quand la lampe s'allume, eh bien les ténèbres reculent. Car il est impossible que les ténèbres cohabitent avec la lumière. Nous allons donc aujourd'hui parler de Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Je voulais bien continuer avec notre thème, notre beau et merveilleux thème, sur l'importance, sur la nécessité d'avoir une vie qui soit malléable, modelable, pétrissable entre les mains du Seigneur, afin que ce dernier fasse de nos vies ce qu'il veut, qu'il fasse de nos vies un instrument ou des instruments, des outils pour sa gloire, des instruments, des outils pour relever tant de défis autour de nous, des instruments pour que lui accomplisse ses objectifs à lui, ses desseins bienveillants, ses plans plus extraordinaires. Je m'attendais à continuer, mais hier en priant, il m'a secoué un tout petit peu comme on secoue le cocotier. Voyez-vous, et j'ai eu cette forte conviction de terminer ce mois de janvier par un message d'évangélisation. Appeler les gens à la repentance, appeler les gens à se tourner vers le seul qui sauve, et qui n'est pas une religion, mais plutôt une personne. Alléluia. C'est le message que lui-même a apporté quand il est venu sur cette terre. C'est le message que ses apôtres, à qui il avait laissé ce flambeau, ont propagé un peu partout dans tout le monde méditerranéen. C'est le message qui a été prêché par l'Église par excellence à travers les âges. Mais malheureusement, avec le temps, ce message a été galvaudé, a été écrémé. Ce message a été falsifié, brocanté, au point où aujourd'hui, on se retrouve avec, dans beaucoup de pays, une sorte de chrétienté qui ressemble à tout, sauf à celui dont l'humanité a besoin. Jésus, le sauveur de l'humanité, tel est donc notre thème, et nous allons lire très rapidement, et j'ai voulu que nous lisions ce qui est sorti directement de sa bouche. Quand il est venu sur cette terre, nous commençons par Jean, l'évangile de Jean, chapitre 14. Jean 14, versets 1 à 6. Il commence par rassurer ses disciples. Il sait que très bientôt, il va entrer dans cette période difficile que nous appelons la passion. Et là, au chapitre 14 de l'évangile de Jean, verset 1er, la Bible nous dit, et c'est le Seigneur lui-même qui parle, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Je vous rappelle qu'il s'adresse à des gens qui avaient déjà une religion. Il s'adresse aux descendants de Jacob. Il s'adresse aux gens qui avaient reçu la loi, qui avaient reçu la révélation. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Ces paroles sont d'une limpidité extraordinaire. Ces paroles sont à la portée de tout le monde. Voyez-vous, on n'a pas besoin de s'élancer dans des très très grandes études et théologies. On n'a pas besoin d'avoir une maîtrise en langue biblique, de connaître à la perfection l'hébreu, le grec ou l'araméen pour comprendre. Voyez-vous, avec un cœur docile, avec un cœur qui reste ouvert, eh bien le Seigneur met cette parole à la portée de chacun de nous. Nul ne vient au Père que par moi. Il a prononcé ça il y a plus de 2000 ans maintenant. Et pourtant, il y a encore aujourd'hui des gens qui tournent. Et pourtant, il y a encore aujourd'hui des gens qui courent dans tous les sens. Il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent qu'un ange peut les prendre et les amener au ciel. Qu'un archange, quelle que soit sa dignité, peut le prendre et les introduire au paradis. 2000 ans plus tard, il y a encore des gens qui croient qu'un apôtre quel qu'il soit, qu'un prophète quel qu'il soit, qu'un chef religieux quel qu'il soit, a le pouvoir d'ouvrir le ciel et de permettre à l'humanité d'y aller. Vous voyez, mes amis, cela montre qu'en effet le diable est là pour éloigner des gens de la parole de Dieu. Enfin, le dernier passage, c'est sa prière qu'il adresse au Père, il se tient devant lui et il va intercéder en faveur de ses disciples. Et au verset premier, la Bible nous dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, pouvoir sur toute chair, sur tous les Africains, sur tous les Arabes, sur tous les Juifs, sur tous les Américains, sur tous les Européens, sur tous les Esquimaux, sur tous les Australiens, sur tous les Asiatiques, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, alléluia. Ces paroles méritent que nous acclamions, que nous applaudissions. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez un peu partout à travers le monde via les médias classiques ou les réseaux sociaux, je voudrais aujourd'hui vous amener à vous tourner vers un seul nom. Le seul qui nous a été donné d'en haut pour le salut de l'humanité. C'est le seul nom qui a ouvert le ciel. Ce ciel qui avait été fermé à cause de la chute de l'homme, là, au jardin d'Éden. Ce ciel qui avait été fermé à cause de la désobéissance de l'homme. Après que l'homme ait tourné le dos à son Créateur. Après qu'il ait méprisé la parole de son Créateur. Eh bien, l'homme lui-même se retrouvait dans une situation plus que terrible, plus que déplorable, plus qu'horrible. Séparé de Dieu, coupé de Dieu. Et depuis, mes amis, l'humanité naît dans le péché, l'humanité vit dans le péché, et à cause du péché, l'humanité est donc destinée à endurer la colère du Créateur. À cause du péché, de la rébellion qu'il y a dans le cœur, du rejet, de l'impiété de l'homme, du mépris qu'il a vis-à-vis de la personne de son Créateur, eh bien, l'homme que Dieu a fait à son image, l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance, l'homme à qui il a donné ce libre choix, en lui montrant, voilà le chemin de la vie, voilà le chemin de la mort. L'homme en qui il a imprimé sa loi morale, car la Bible déclare que la loi morale, les 10 commandements sont inscrits au cœur, dans le cœur de l'homme. C'est imprimé dans l'ADN de l'homme. Où qu'il soit, l'homme sait que tu es mauvais. Où qu'il soit, l'homme sait que mentir est mauvais. C'est inscrit dans le cœur. Mais malgré cela, l'homme mène une vie qui le met en porte-à-faux avec son Créateur. Malgré toute cette connaissance, l'homme est incapable de pouvoir satisfaire pleinement la justice de Dieu. Et depuis cette chute de l'homme et de la femme, ce Dieu-là, mes amis, qui aurait pu condamner l'humanité à demeurer loin de lui pour l'éternité, depuis cette chute, depuis ce choix terrible, le Créateur aurait pu laisser l'homme dans cet état abominable, dans cet état terrible, horrible. Ainsi l'homme, mes amis, serait resté dans cet état pour l'éternité, un état de souffrance, un état terrible. Mais c'est Dieu qui est juste, certes. C'est Dieu qui est saint, certes. C'est Dieu qui est la vérité, certes, est aussi amour. Il est aussi riche en bienveillance. Il est aussi riche en bonté. Et dans son amour, eh bien, il n'a pas voulu laisser l'homme dans cet état. C'est là qu'il va échafauder son plan de salut. C'est là qu'il va préparer le moyen pour sauver l'homme, pour donner à l'homme l'occasion de se réconcilier avec lui, pour donner à l'homme la possibilité de quitter le monde d'esclavage par rapport au péché, par rapport au diable, et d'entrer dans une relation apaisée avec son Créateur, d'entrer dans une relation juste, vivante, puissante avec son Créateur. Et c'est ce qui va arriver lorsque Dieu lui-même, quand les temps se sont accomplis, quand le jour J est arrivé, Dieu lui-même est venu sur cette terre pour nous apporter le salut. Il est venu par et au travers de son Fils, Jésus de Nazareth, alléluia. Jésus, le sauveur de l'humanité. Jésus, la seule solution au problème fondamental de l'homme, c'est-à-dire à la culpabilité de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Jésus, le sauveur de tous, car il a reçu cette mission de la part de son Père, de venir sur cette terre, de prendre la place de l'homme, de payer le prix de la rébellion, de payer le prix pour racheter l'homme, restaurer l'homme dans sa relation première. Car, rappelez-vous, là au jardin d'Éden, Dieu avait placé l'homme et la femme. Et la Bible nous dit que le Seigneur descendait et était en communion avec eux. Gloire à Dieu. Mais en même temps, étant fait à son image, eh bien, ils avaient cette possibilité de faire du choix. Voyez-vous? L'homme n'est pas un animal évolué. Malheureusement, c'est un discours qu'on entend de plus en plus, qu'il serait un babouin, un macaque amélioré, qu'il serait un bonobo évolué, tout ce que vous voulez. Non, l'homme reste une créature singulière. L'homme reste, mes amis, une créature faite à l'image de Dieu. C'est une insulte grave que de croire que l'homme est le résultat, je ne sais pas de quel mécanisme d'évolution. C'est une insulte, une offense grave de croire que vous et moi, eh bien, nous sommes le résultat d'une évolution. Nous sommes partis, je ne sais où, en passant par différentes phases, pour finir par être des macaques, des babouins. Et puis un jour, comme ça, beaucoup de temps, beaucoup de neige, beaucoup d'oxygène, tout ce que vous voulez. Et enfin, l'homme est devenu ce qu'il est. Mes amis, c'est quelque chose de grave. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et nous ne comprendrons jamais assez. Mes amis, c'est que l'homme représente aux yeux de Dieu. Je méditais encore cette semaine. Tu es toujours dans Jean, dans les évangiles. Et puis dans Exode, où Dieu se présente à Moïse. J'ai dit ça un tout petit peu en semaine, je crois. Il lui dit, voilà, j'ai entendu les cris de mon peuple qui souffre en pleine servitude en Égypte, etc. Je descends, etc. Voilà, tu vas aller pour délivrer ce peuple. Moïse, il dit, mais s'il me pose la question, quel est le nom de Dieu, de ce Dieu qui t'envoie? Moïse savait, il avait voulu en Égypte, et qu'en Égypte, il y avait plusieurs divinités. Osiris, Amon, Ra, enfin, pour ceux qui ont étudié. Et donc, il y avait un Dieu pour la pluie, un Dieu pour amener les âmes dans l'au-delà. Il y avait plusieurs divinités, chaque divinité avec son nom. Mais toi, s'il me demande, mais quel est ce nom-là? Et il va le dire. Le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Arrêtons-nous un tout petit peu. Dites-moi un peu. C'est toujours le plus grand qui donne le nom au plus petit. Oui ou non? Mais oui, nous portons tous le nom de nos parents. Jamais le contraire. Voilà. Je m'appelle tel parce que derrière moi, il y a mon père. Voilà. Tu t'appelles tel parce que ton père t'a donné ce nom. Alors quand on t'appelle ce nom-là, par ce nom-là, ben, quelque part on reconnaît l'autorité de ton père. Voyez-vous? Mais regardez comment Dieu se présente. Il se lie à jamais à l'homme. Le Dieu de... Il ne dit pas le Dieu de l'ange Gabriel. Il ne dit pas le Dieu de telle ou telle autre gloire céleste. Mais le Dieu de cet homme fragile, vulnérable. Le Dieu de cet homme rebelle, coupable, qui un jour, il appelle, là où il était en Mésopotamie, Abraham, pour dire, écoute, voilà, tu vas quitter tout, ton pays, ta famille, ta maison, et vers un pays que je te montrerai. Tout est parti de là. Donc c'est à partir de cette créature singulière que Dieu se fait connaître. Et lorsque le moment est venu, il n'est pas venu comme un ange céleste, mais Dieu est devenu homme. Mes amis, nous avons du prix aux yeux de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre notre singularité, notre valeur. Nous ne dépendons pas du fait d'appartenir à telle famille, grande famille, d'avoir des diplômes, un cerveau à plusieurs étages. Non. Le simple fait d'être homme, dans le sens générique du terme, c'est-à-dire humain, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut à chaque fois s'expliquer. Voilà. Et même pour écrire, c'est un problème. Eh bien, ce Dieu-là est devenu homme. Il n'est pas venu sous la forme d'un ange ou d'un archange. Il est venu sous la forme d'un homme, Jésus-Christ de Nazareth, qui était pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Alléluia. Il est le Sauveur, il n'y en a pas d'autre. Et quand nous parlons du Seigneur Jésus, nous parlons de Jésus issu de la tribu de Juda, quelque part en Israël. Car aujourd'hui, on nous parle de Jésus de noir. Oui ou non? Et bientôt peut-être de Jésus asiatique, de Jésus des Indiens. Tout cela, c'est de la distraction. Tout cela est fait par l'ennemi pour nous distraire. Il n'y a qu'un seul, Yeshua Messiah, celui qui a paru, qui est né de la Vierge Marie par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul qui a foulé la terre d'Israël, Il n'y a qu'un seul qui est monté à la croix, qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Gloire à Dieu. Tel est donc le message central de l'évangile du Christ, de la bonne nouvelle. Le message que lui-même est venu emporter sur cette terre. Mais le message que ses disciples, et en particulier les apôtres, eh bien, prêcheront plus tard. Jésus, l'unique chemin pour aller au ciel. Jésus, la seule voie qui conduit vers Dieu. Jésus, la seule voie qui conduit au ciel. Il n'y a pas de sentier. Si tout chemin mène à Rome, mes amis, tout chemin ne mène pas au ciel. Aucune religion ne peut vous amener au ciel. Aucune observance religieuse ne peut vous libérer de la pesanteur du péché qui vous traîne vers la mort. Un seul peut le faire. C'est celui qui est venu d'en haut. C'est lui et lui seul qui a donné sa vie. Et lui seul, comme il est dit dans ce que nous avons lu, lui seul qui est le chemin, lui seul. Oh, alléluia. L'unique chemin, il n'y en a pas deux. Arrêtez de vous confier dans la religion. Elle peut être monothéiste ou polythéiste, peu importe. La religion ne sauve pas. Elle peut vous susciter en vous quelques sentiments quelconques, voyez-vous. Mais, comme quelqu'un l'avait dit, mieux vaut ne pas avoir de religion que d'en avoir une qui vous trompe. Voyez-vous? Et donc, Jésus est l'unique, le seul chemin qui conduit vers le Père. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est très simple. Alors arrêtez de courir après je ne sais tel archange. Arrêtez de courir après tel ou tel autre personnage de la Bible. Même Marie, qui l'a porté, a eu besoin de croire en lui afin d'être sauvée. Car la Bible est formelle. Tous ont péché. Tous. Sans exception aucune. Voyez-vous? Tous. Jésus. La vérité qui rend libre. La vérité qui affranchit l'homme de toute forme d'esclavage. À commencer par l'esclavage par rapport au diable. Car la Bible nous dit que le monde entier est sous l'influence néfaste du diable. Le monde entier est dominé par les forces du mal. Le monde entier maintient les hommes dans un état d'esclavage, d'asservissement. Le monde entier est vampirisé par les démons. Mais un seul peut nous rendre libres. C'est celui qui se révèle comme étant la vérité. Jésus, la vie véritable. Cette vie après laquelle, mes amis, l'humanité soupire. Comme une biche soupire après du courant d'eau, eh bien cette vie-là, que la Bible nous présente comme étant la vie éternelle, la vie aux caractéristiques et divines, cette vie-là ne se trouve pas dans une forme de religion quelle qu'elle soit. Cette vie se trouve dans une personne. Cette vie est une personne. Jésus, alléluia. Encore Jésus, toujours Jésus. Oubliez n'importe quoi, mais n'oubliez jamais Jésus. Prêchez la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec le temps, nos églises s'écartent de plus en plus de ce message apostolique. Aujourd'hui, on pousse les gens à placer leur confiance dans les apôtres, dans les évêques, tout ce que vous voulez, les prophètes. Attention. Attention. Le ministère n'est pas une occasion de monter sur un piédestal pour que nous soyons admirés partout, pour que nous soyons reconnus partout comme évêques, comme pasteurs patriarcales. Être reconnu comme ceci, comme cela, oh non, c'est ce qui tue l'Église aujourd'hui. Voyez-vous, nous avons besoin de revenir au béaba de la parole de Dieu, de revenir à Jésus et à Jésus seul. Les ministères sont là comme des moyens, simplement pour nous mettre au service du Seigneur. Celui qui doit être vu, celui qui doit être honoré. Nous ne sommes que des simples outils Non, aujourd'hui, les gens sont sur leur piédestal. Ils montent à leur pinacle religieux. Ils sont là, il faut les reconnaître comme ceci. Il faut les reconnaître comme cela. J'avais rencontré un jeune qui est pasteur ici dans la ville. Son papa, je l'ai connu et tout ça. On se rencontre quelque part, j'ai dit, voilà. Ah bon, ton papa, le pasteur, ah, l'apôtre. Je vous ai dit, lisez la parole. Vous savez combien de fois le titre d'apôtre, le mot apôtre, apparaît dans l'évangile de Matthieu? Une seule fois. Une seule fois. Quand il les appelle pour être avec lui et pour leur confier la mission, il appela le 12 qu'il nomma apôtre. C'est tout. Dans l'évangile, une seule fois de Matthieu, je veux dire. Le reste, ils sont tous appelés disciples. C'est ça la chose la plus importante. Voyez ? Mais aujourd'hui, on veut des galons. On veut être reconnu comme ceci. Les gens se battent pour se positionner, occuper le poste de représentant légal, de premier suppléant, deuxième suppléant, troisième suppléant, secrétaire général. On parle du comité exécutif. Écoutez, si vous avez besoin des titres, allez dans l'armée. On est en train d'engager. Si vous avez besoin des titres, eh bien, étudiez, allez jusqu'au bout. Vous allez soutenir une thèse, vous allez avoir un titre académique. Les ministères ne sont pas des titres qu'on nous donne. Ces titres sont liés à la fonction. Mais aujourd'hui, tout le monde s'autoproclame. Je suis ceci, je suis cela. Jésus. Salut pour tout le peuple. Non pas une religion, non pas une croyance. Jésus, lumière du monde. Lumière pour éclairer les nations. Les nations, même le Congo. Arrêtez de tromper les gens. Dieu a choisi le Congo. Jésus a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Y compris les Américains. Car Dieu a tant aimé le monde. Y compris les Ougandais. Car Dieu a tant aimé le monde. Y compris les Sud-Africains. Arrêtez de distraire les gens. C'est ce que je sais. La Bible nous dit, et c'est le diable lui-même, quand il va tenter Jésus, parmi les points de tentation, il va lui faire des propositions, de se prosterner devant lui. Mais aussi, disait bien, il dit, si tu te prosternes devant moi, il lui montre tous les royaumes et leur gloire. Vous avez déjà lu ça? Ah. Il dit, regarde, tous ces royaumes sont acquis. Lisez la Bible. Matthieu 4. Arrêtez avec ces élucubrations prophétiques. Non. Si tu m'adores, si tu te prosternes, si tu fais ce que je te demande, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Et donc, ce n'est pas étonnant que le royaume, les États, les nations soient manipulés par des puissances démoniaques. Et Jésus n'est pas venu sauver une nation. Il est venu sauver les hommes. Où qu'il soit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, alléluia. Je veux bien qu'on prie pour notre nation. Je prie pour notre nation. Je prie. Mais attention. En quoi ils nous aimeraient plus que les Brazzavillois? Vous avez une raison? En tout cas, vous pourriez en avoir une, mais elle ne serait jamais biblique. Car tous ont, y compris nous, et tous ont besoin de la grâce. Y compris nous. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, ne vous étonnez pas que les nations prennent, dans la plupart des cas, des lois, édictent de lois, prennent des résolutions, font face de choix qui nous mettent en porte-à-faux avec notre foi. Ce n'est pas étonnant parce qu'elles sont manipulées par les puissances démoniaques. Voyez-vous, Dieu n'a pas une nation en dehors d'Israël. Mais sinon, nous sommes tous égaux devant lui. Moi, je veux bien. Je veux bien. Je ne veux pas suivre tout le monde parce que tout le monde va dans ses sens. Je vais à contre-courant pour autant que je sois porté par la parole de Dieu. Mes amis, Jésus est la lumière du monde, appelé à éclairer toutes les nations. Jésus est la gloire d'Israël. Ça veut dire que celui qui peut donner le poids à Israël, c'est lui. Les États-Unis peuvent soutenir Israël, mais ça reste une nation. Il n'y a qu'un seul. Jusqu'au jour où tous les descendants de Jacob reconnaîtront enfin que celui qu'ils avaient rejeté est vraiment le Messie promis. Celui qui accomplit toutes les promesses de Dieu. Le salut est dans une personne. Et cette personne est avec nous. Alléluia. Les premiers prédicateurs de la bonne nouvelle, de l'évangile, eh bien, l'ont annoncé, l'ont proclamé avec force. Cela leur a attiré beaucoup de problèmes. Ils sont passés par toutes sortes de tribulations. Rappelez-vous de Pierre et Jean, là au temple, quand ils opèrent ce miracle au nom du Seigneur et font marcher ce paralytique, eh bien tout le monde accourt, tout le monde a les yeux fixés sur eux. Pierre prend la parole et dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre propre puissance que nous avons fait marcher cet homme? Non, c'est par la foi dans le nom, le seul qui nous a été donné d'en haut, par lequel nous sommes sauvés. Et puis il y a un attroupement. Et les responsables de la police du temple arrivent. Ils sont arrêtés. Ils sont jetés dans la cellule. Et le lendemain, on les amène pour comparaître devant le Sanhédrin, le Parlement, où il y avait des principaux sacrificateurs d'un chef religieux. Ils leur ont posé cette question. Dites-nous, par quelle puissance ou par quel nom vous avez fait cela? Eux-mêmes étaient intrigués. Certainement qu'ils avaient vu cet homme qu'on amenait, qu'on plaçait là à la porte du temple et qui demandait à tous ceux qui venaient au temple un peu d'argent, une aumône, etc. Mais cette fois-ci, l'homme marche. L'homme, eh bien, fait ce qu'il n'avait jamais fait. Alléluia. Donc, ils sont intrigués. Ils sont interpellés. C'est pas possible. Dites-nous. C'est là que Pierre prendra la parole. Et après, il va attirer toute leur attention sur le seul nom. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oh, alléluia. Et Pierre, au verset 12, de acte 4, dira ceci, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, où que nous soyons, il n'y a sous le ciel, ici sur terre, vous allez faire tout le tour de notre galaxie, vous allez dans le cosmos et tout ça, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il avait déjà parlé du nom du Seigneur, si c'est le nom de Jésus, alléluia. Et l'apôtre Paul plus tard dira, écrivant en Romains, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mes amis, l'homme a besoin de salut, puisque tous sont péchés, puisque nous ne sommes tous dans cet état de péché et de pécheur. Et le seul moyen, c'est d'entendre la bonne nouvelle. C'est d'entendre le message de l'évangile. Et le message de l'évangile, la bonne nouvelle du Christ, est plus qu'un simple message religieux. Il n'est pas une influence à subir comme ça se passe avec les différents mouvements religieux. Les gens subissent l'influence de la religion. C'est ainsi que quand on se tourne vers telle ou telle autre religion, on finit par s'habiller aux couleurs de la religion. Ainsi, à partir de ça, ben, vous êtes étiqueté quand on vous voit marcher d'une certaine manière, habillé d'une certaine manière. Ça, c'est telle religion, n'est-ce pas? Ça, c'est telle autre religion, etc. On subit une influence, mais l'évangile n'est pas une influence à subir. Ce n'est pas non plus un idéal à poursuivre. Encore moins, mes amis, encore moins un but à atteindre. L'évangile, c'est une personne à recevoir. Car la Bible déclare, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Nous ne naissons jamais enfants de Dieu, mais nous le devenons lorsque Jésus vient dans notre vie. Tout commence par là. Pas d'expérience avec Dieu sans une rencontre réelle avec Jésus. Pas d'expérience, pas de ciel tant qu'on n'est pas avec Jésus, parce que celui qui est la porte, celui qui est le chemin, alléluia, pas de salut en dehors de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, dans sa prière sacerdotale que nous avons lue dans Jean 17, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, je pourrais ajouter, l'unique vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, alléluia. Tout est là. La vie éternelle ne se trouve pas dans une religion. La vie éternelle n'est pas quelque part sur cette terre, dans un lieu de pèlerinage, je ne sais, non. La vie éternelle se trouve dans une personne. Il faut expérimenter cette personne-là pour enfin avoir la vie éternelle. Mes amis, l'essence, la substance, la nature de la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça veut dire quoi, connaître? Cela ne veut pas dire que le Seigneur nous pousse à nous lancer dans des études de théologie, dans des études rabbiniques, bibliques, tout ce que vous voulez, même si connaître la doctrine est quelque chose de très bien. C'est fondamental. Toutes ces doctrines sont comme des remparts qui nous permettent de rester sur la voie. Mais réduire l'expérience qu'ils retiennent à simplement à la simple connaissance théologique ou autre, c'est passer à côté, mes amis, de la bénédiction. Ici, connaître doit être compris dans le sens d'expérimenter. Or, la vie éternelle, c'est qu'il t'expérimente, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, alléluia. Puisque celui, le chemin, mes amis, le vrai christianisme est plus qu'une religion. C'est une relation. C'est une relation avec une personne, la personne de Dieu. Alléluia. Une relation intime, une relation vivante avec Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi je vous avais dit que dans cette série d'enseignements sur le divin potier et l'argile, nous prendrons beaucoup de temps pour examiner la relation. Le christianisme, la vie éternelle, eh bien, est une question de relation avec le Seigneur, avec Dieu. Et nous entrons en communion avec Dieu. Nous entrons en relation avec Dieu à partir du moment où nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons de venir en nous. Là, il y a une relation qui naît. Oh, alléluia. Et cette relation qui naît, eh bien, est appelé à s'approfondir, à s'intimiser. Cette relation qui naît, eh bien, vaut plus que tout l'or du monde. Et pour que nous puissions demeurer en Christ, il faudra alors soigner cette relation. Voyez-vous. Donc, le christianisme est une question de relation. Pas avec une religion. Pas avec un ange. Pas avec n'importe qui, mais plutôt avec la personne de Dieu, mais par et au travers de Jésus-Christ, alléluia. Lorsque nous le recevons, lorsque nous l'accueillons en nous, eh bien la Bible nous dit, nous commençons une nouvelle vie, alléluia. Oui, tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, tous ceux qui l'accueillent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, tout cela, eh bien finissent par faire cette expérience fondamentale et vitale qu'on appelle la nouvelle naissance. Par la naissance physique, vous et moi, nous sommes entrés dans cet univers. Par la naissance physique, nous sommes entrés dans notre famille physique, n'est-ce pas? Par la naissance physique, nous avons reçu le nom de notre famille. Voyez-vous? Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Par la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut, nous entrons dans l'univers de Dieu, dans le royaume de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous devenons des enfants de Dieu à part entière. Nous pouvons appeler notre Dieu Abba Père, car il est réellement, car il est effectivement. Et puisqu'il est notre Père, eh bien, il se tient alors à nos côtés pour nous accompagner dans notre pélerinage. Il est là pour pourvoir à nos besoins. Il est là pour, mes amis, nous donner, nous accorder la victoire. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Par la foi en Christ, rapidement, cette nouvelle naissance nous change. C'est une expérience intérieure. Le changement part du dedans. Voyez-vous? Le changement vient de là. Et par la nouvelle naissance, nous expérimentons ce changement, cette transformation de l'intérieur, faisant de nous de nouvelles créatures. Comme l'apôtre le dira plus tard dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Il ne dit pas si quelqu'un appartient au judaïsme, si quelqu'un appartient au pentecôtisme, si quelqu'un appartient au catholicisme, au protestantisme, à l'islam, à tout ce que vous voulez. Non, la nouvelle naissance a lieu dans notre vie lorsque Jésus vient. Parce que lui, comme nous l'avons lu, il a dit, je suis la vie. Et nous devenons de nouvelles créatures. Et maintenant la question, comment entrer en relation avec Dieu? Comment avoir une relation vivante, existentielle, forte, puissante avec Dieu, afin d'expérimenter la vie éternelle? Eh bien, à cette réponse, et plutôt à cette question, il n'y a qu'une seule et seule réponse. Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Nous n'entrons pas en relation avec Dieu au travers d'une religion. Il y en a tellement, mes amis, pas du tout. C'est lorsque Jésus vient dans notre vie, alléluia. Lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, à ce moment-là, nous commençons une nouvelle vie. Et quand il vient en nous, là il commence un travail de régénération, un travail de métamorphose. Parce que le problème de l'homme vient du dedans. Voyez-vous? Pas de l'extérieur. Aujourd'hui, on pousse les gens à s'habiller d'une certaine manière pour être reconnus comme membres de telle ou telle autre religion. Voyez-vous? On attache beaucoup d'importance à l'extérieur. Mais il n'y a que Dieu qui peut changer le fond, qui peut nous transformer, qui peut aller, ce qu'on a, les Américains disent, inside out, partir de l'intérieur. C'est vraiment une révolution extraordinaire, puisque c'est du dedans que viennent tous les problèmes. C'est le Seigneur lui-même d'ailleurs qui l'a dit. Hein? Matthieu 7, verset 21 à 23, il nous dit, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil et folie, tout cela vient d'où? Du cœur. Donc le problème fondamental de l'homme, c'est l'état de son cœur. Vous pouvez ne pas manger de porc, du porc, ne pas consommer de cochon, porc, tout ce que vous voulez, et être souillé, être impur, jusque dans votre moelle épinière. Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui souille l'homme. Le Seigneur l'a dit. Le problème de l'homme, c'est là. Comment changer le cœur de l'homme? Il n'y a pas deux recettes. Il n'y a pas deux formules. Mes amis, il n'y a pas de remède religieux. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut transformer nos vies, qui peut métamorphoser nos vies, qui peut nous libérer de la haine, nous libérer de toutes mes formes de méchanceté, nous libérer des mauvaises pensées, de cupidité, de convoitise, de meurtre, de toutes sortes d'hostilités, d'adultère. Il n'y a que lui, car en lui, nous devenons de nouvelles créatures. Dieu seul peut changer l'homme, et il le fait par et au travers de Jésus-Christ. Et pour rencontrer Jésus, et là, nous arrivons bientôt à l'appel, il y a une démarche à suivre. On ne rencontre pas Jésus comme ça au hasard. Oh tiens, je passe. Oh Jésus, bonjour. Non, pas du tout. Voyez-vous, il y a une démarche à faire. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que vous êtes pécheur. Tous sont pécheurs. Romains 3, 23. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Tous qui vivent, eh bien, a péché. Et la conséquence du péché, c'est d'être coupé de Dieu. Et comme on est coupé de Dieu, alors tout devient possible. Tous les travers deviennent possibles. Puisque nous sommes coupés de Dieu, et étant donné que Dieu nous a créés pour lui, donc nous n'avons plus de sécurité, nous nous retrouvons entièrement sous la dépendance du diable, sous l'influence, mes amis, des puissances et des forces du mal. Mais quand Jésus vient en nous, eh bien, il nous apporte la vie, il nous délivre du pouvoir des ténèbres, il nous délivre du péché. Ainsi, le péché ne domine plus sur nous. Certes, nous ne devenons pas parfaits. Voyez-vous, nous naissons de nouveau. Et petit à petit, au fur et à mesure que nous allons grandir avec lui, eh bien, des faiblesses, des choses, des péchés qui nous dominaient autrefois vont petit à petit faire place au fruit de la sanctification. Reconnaître que vous êtes pécheur et ne pas trouver des excuses en disant, écoutez, non, moi je suis né dans une famille dite chrétienne, le christianisme, la vie spirituelle ne se transmet pas de manière génétique. Voyez-vous, il faut une rencontre personnelle avec Jésus. Alléluia. La deuxième chose, vous devez croire que cette vie éternelle est un don gratuit. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez rien faire. Et de toute façon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir la vie éternelle, puisque la vie éternelle est la conséquence de la présence du Seigneur en nous. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Jésus, parce que vous avez... Tout nous vient de lui. La Bible nous dit que c'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. Vous voyez ? Donc la vie chrétienne. Romains 6, 23. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu, alléluia. Cette vie que nous avons en Christ, eh bien c'est un don que nous devons recevoir. Et permettez-moi de vous dire que tout ce que Dieu nous donne en tant que Père, il nous le donne, non pas parce que nous aurions fait quelque chose d'extraordinaire, c'est simplement par amour qu'il nous donne tout cela. Voilà la deuxième chose, alléluia. Vous devez reconnaître cela, la vie éternel est un don que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Vous devez vous repentir de vos péchés. Voyez-vous, reconnaître que jusque-là vous êtes pécheur. Même si, bon, vous avez une vie bien réglée, même si vous êtes comme ça, vous n'êtes pas agité, vous avez reçu une très bonne éducation, mais ça ne change rien, vous êtes pécheur. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est un exemple que j'aime beaucoup. Vous avez un manguier. Il y a des périodes où le manguier porte beaucoup de fruits, n'est-ce pas? Parce que c'est la saison de pluie. Mais c'est pas parce qu'il a beaucoup de mangue que le manguier devient plus manguier qu'il était avant. Et puis la saison sèche arrive, il n'y a plus de mangue, n'est-ce pas? Et quelquefois, toutes les feuilles, eh bien, tombe. Eh bien, ce n'est pas pour autant que le manguier cesse d'être mangué. Le manguier est mangué dans son essence. Ce ne sont pas les mangues qui font manguer, mais c'est parce qu'il est mangué qu'il porte des mangues. Voyez, c'est parce que nous sommes pécheurs que nous péchons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, avec Dieu, nous devons nous repentir. Je suis voleur. Je suis dans une relation illégale, irrégulière. Je vis avec quelqu'un alors que nous ne sommes pas mariés, il faut le reconnaître. Ne cherche pas des excuses. Ah oui, mais Seigneur, tu vois, dans notre tribu, c'est permis. Non. On ne marche pas selon les diktats ou les principes de nos tribus ou de nos ethnies. C'est question d'être en règle avec Dieu. Alléluia. Et puis ensuite, après la repentance, vous pouvez maintenant lui demander à venir dans votre vie. Vous pouvez le recevoir, car à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais vous inviter à incliner votre tête dans la prière. Jésus est bien présent. Il est là au milieu de nous. Et je vais faire l'appel. Un jour, j'ai entendu cet appel. C'était après un culte, ici à la Borne, un dimanche. Le Seigneur avait déjà commencé à me travailler quand je suis rentré à la maison. Le frère qui nous amenait ici à l'église, il me pose la question, il dit, « Mon frère, est-ce que tu aimerais recevoir Jésus ?» Et je peux vous assurer que j'avais déjà été préparé. Je lui ai dit, oui, je veux. J'ai commencé à pleurer. J'ai invoqué le nom du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, viens dans ma vie. Il est venu. C'était au mois de janvier 85. Presque à la fin du mois de ce janvier-là, j'ai accepté Jésus. Depuis, il est dans ma vie. Il est avec moi, je suis avec lui. Alors, peut-être que tu as compris maintenant que ce n'est pas la religion qui donne cette dignité, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as compris que ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne et que tu es chrétien, mais que c'est une relation que tu dois établir avec ton Dieu. Et pour cela, tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur. Tu dois réaliser le besoin d'avoir Jésus dans ta vie. Si tel est ton cas, eh bien alors que nous avons nos têtes baissées, tu peux lever simplement ta main, ou vous levez vos mains, et nous allons prier pour vous, afin que le Seigneur, merci pour les mains qui s'élèvent. Merci. Oh, gloire à Dieu, merci. Merci pour les mains qui s'élèvent. Tout commence par là. Il faut une rencontre personnelle avec Jésus. Jésus est là. Il a donné sa vie pour vous, mes amis. Il a pris vos problèmes, vos épreuves, vos maladies, vos malédictions. Il a pris votre culpabilité, votre rébellion sur lui. Il est mort, il est ressuscité et aujourd'hui il se tient devant vous. Merci pour toutes les personnes qui ont levé leurs mains. Si cela ne vous dérange pas, je vous demanderai de vous lever. Pendant que les autres ont les têtes baissées, je vais prier pour vous et je vais prier avec vous pour vous permettre de recevoir Jésus. Merci. Merci pour toutes les personnes qui se sont levées. Sachez qu'aujourd'hui, le ciel est avec nous. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Or, ce matin, il y en a plusieurs. Eh bien, sachez que le ciel est prêt à se réjouir avec nous. Sachez que le Seigneur est là, le Fils de Dieu. Il veut vous sauver. Réalisez qu'il est devant vous. Réalisez qu'il vous aime. Réalisez qu'il a donné sa vie pour vous. Oh, alléluia. Vous allez prier après moi. Faites de cette prière votre prière. Dites, Seigneur, viens dans ma vie. Mais avant ça, je te demande pardon. Tu vois combien ma vie est marquée par tel péché, tel autre péché. Tu vois combien, Seigneur, ma vie est marquée par la corruption, par l'immoralité, ma vie de rébellion, ma vie, une vie agitée, qui ne voit que le plaisir, etc. J'ai péché contre toi. Et ce matin, je me tiens devant toi, Seigneur, pour me repentir, pour reconnaître que je suis pécheur, pour me repentir de tout le mal que j'ai commis. Et en même temps, Seigneur, pour implorer ta grâce sur moi, pour te demander à venir dans ma vie. Vous allez faire cette prière après moi. Répétez cette prière après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je voudrais d'abord te dire merci pour ta parole. Ce matin, tu m'as parlé. Je réalise que c'est de toi et de toi seul dont j'ai besoin. Seigneur Jésus, je commence par te demander pardon pour ma vie, une vie marquée par le péché. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous les mals que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui. Pardonne-moi, car je sais qu'à la croix, tu es mort à cause de mes péchés. Merci pour le pardon que tu m'accordes maintenant. Merci, Seigneur. Je voudrais maintenant t'ouvrir mon cœur. Je voudrais t'ouvrir la porte de mon cœur et te demander, Seigneur, de venir dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur. Viens, ô Dieu, que je ne sois plus seul, que tu prennes le commande de ma vie. Je te reçois, ô Seigneur, comme mon sauveur personnel. Je te reçois, Seigneur, comme le Fils du Dieu vivant. Et reste désormais dans ma vie. Et aide-moi désormais à marcher avec toi. Merci Jésus pour le pardon de mes péchés. Merci Jésus de ce que tu es venu dans ma vie. Merci Seigneur. Si vous avez fait cette prière avec sincérité de cœur, restez encore debout, je vais prier pour vous. Sachez que le Seigneur est venu dans votre vie. Et j'aurais aimé les pasteurs, bougez-vous un peu, regardez ceux qui se sont levés, hein. Je vais prier pour vous, et puis après nous verrons comment vous aider à la fin. Oh, alléluia. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ces âmes, pour ces personnes qui aujourd'hui ont compris le message de l'Évangile. Ces âmes ont compris, Seigneur, que la religion est vaine, que le salut est en toi et en toi seul. C'est en étant en relation avec toi, Seigneur, qu'un homme expérimente la vie éternelle. Et ses bien-aimés se sont tenus devant toi. Ils se sont repentis. Seigneur, ô Dieu, ils t'ont confié leur vie. Merci d'être venu dans leur cœur. Merci, ô Dieu, de les accueillir dans ton royaume. Merci, Jésus, ce sont de nouvelles âmes qui aujourd'hui viennent de quitter le monde des ténèbres pour entrer dans ton royaume de lumière. Nous les accueillons dans la famille de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous te prions désormais de les accompagner, d'être avec eux, de leur accorder la victoire. Ils ne sont plus seuls. Garde-les, protège-les. Seigneur, combat pour eux dans le combat de tous les jours. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors vous qui vous êtes levés, si vous n'êtes pas pressé, on vous a remis un...